Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en décembre 2011 et c'est le numéro 11. Salut à tous, salut Cyril, ça va ?
Salut Cobal, ça va très bien, merci, et toi ?
Ça roule. Donc alors, pour ce dernier numéro de l'année, de ce premier cycle de Radio Rôliste, le programme est le suivant. Nous aurons donc quelques news, une critique du coffret Shade, donc le premier supplément en quelque sorte. Puis Cyril nous parlera de Solipsity, puis je parlerai du jeu de rôle préhistorique Wurm, ou Wurm, je ne sais pas. Et enfin, Cyril nous parlera de Mississippi. Alors, pour ces news, je n'ai pas pris... J'ai pas énormément travaillé, je dois bien l'avouer. Juste quelques news, il y a une nouvelle édition de Devastra qui va sortir. Tu sais, c'est un jeu de rôle en...
Oui, sur des armes
magiques,
des dieux hindous.
Oui, liés à des dieux hindous. Et donc c'était un univers, une sorte de monde parallèle où l'Inde s'était développée d'une certaine façon, etc. Donc ce jeu était sorti chez le 7ème Cercle, c'était du one shot, donc avec juste un livre, et puis voilà. Et le jeu a été repris par Pulp Fever, donc il y a un nouvel éditeur qui avant était connu sous le nom Game Fever, je ne sais pas si tu connais. Cette nouvelle édition sera sous-titrée Réincarnation, et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Sinon, il y a l'adaptation des Chroniques des Féales, donc qui est une série une trilogie de romans de Mathieu Gaborit.
J'ai une question débile.
Oh, oui.
On ne devrait pas dire Chroniques des Féaux ?
Ouais, mais licence artistique, tout ça, tu vois.
Ah bon ? Non, j'en sais rien. Hein. C'est une vraie question.
Donc, les Chroniques des Féales de Mathieu Gaborit va être adapté en jeu de rôle et va sortir chez Sans Détour début 2012. Donc ça aurait dû normalement sortir à la fin de l'année, là, mais finalement c'est reporté. Un peu comme Bloodlust, finalement. Oh tiens, j'ai appris une petite anecdote amusante. Donc, à propos du V20,
oui.
Du Vampire 20e anniversaire. Alors tu vas voir, cette news va te passionner. Car cela concerne à la fois vampires
dis-nous donc.
Et CCP.
Ah.
Donc il y a eu donc tu sais, pour la sortie de cette 20e édition, il y avait la possibilité de le commander par correspondance en passant par le biais notamment de deux associations, Méandre Chimérique et V20.
Oui, V20 Europe.
Voilà, et en fait, il y a eu un gros retard, des problèmes de livraison, et en fait, ces problèmes sont dus à CCP. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, tu te souviens, avec la sortie du nouveau EVOnline, du nouveau patch EVOnline Incarnat, la mise en place des microtransactions qui était un de leurs gros projets, et en fait ils comptaient sur ces deux éléments pour avoir un surcroît d'abonnés et donc assurer leur projet de développement dans d'autres filières, notamment celle sur le World of Darkness et d'autres trucs. Et vu que ces deux éléments en fait ont pas super bien marché pour diverses raisons dont on s'en fiche, du coup CCP a été obligé de licencier et ouais. Notamment chez White Wolf.
Ouais, c'est eux qui ont pris le plus cher. C'est l'équipe de développement de White Wolf.
Voilà.
De World of Darkness et toutes les fonctions un peu périphériques. Même les community managers de CCP, les fonctions qui viennent à la fin de la chaîne de valeur, entre guillemets,
oui.
On subit des licenciements. Donc il y a eu des licenciements sur, je crois, sur tous les projets, il me semble, mais quasiment rien sur Dust, un petit peu sur EVE Online, et la majorité sur des équipes qui travaillaient sur World of Darkness.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, comme quoi le vrai monde a parfois une...
Mais là,
sur l'achat de.
Tu parlais de V20. Là, j'ai vu que des livres avaient été réceptionnés et étaient par l'association et étaient en train d'être réexpédiés à chacun.
Oui. Apparemment, la situation s'est arrangée. Ils ont contacté directement quelqu'un de chez CCP USA, enfin Atlanta, si je me souviens bien, et que donc le problème était en passe d'être réglé.
C'est bien, mais bon, ils ont attendu longtemps. Hein. Voilà.
Ah oui, ça a été vraiment long. Moi, je sais pas, je connais pas la situation.
C'est sorti en septembre.
Ah oui, ça fait 3 mois.
Ouais. Alors donc il y a eu, j'en avais parlé ici, la grande mascarade à la Nouvelle-Orléans. Qui était consacré, qui tournait autour de V20, donc la 20e édition de Vampire la Mascarade, et donc l'association V20 Europe a organisé il y a un mois une petite réunion entre fans européens de Vampire,
oui.
Qui s'est tenue à Amsterdam, qui a juste duré un week-end, une soirée, je sais plus. Je n'y ai pas participé. Et à cette occasion, ils ont eu droit à des petites vidéos des développeurs de vampires, ce genre de choses qui se sont adressées à eux. Enfin, ils ont essayé de se déguiser. Enfin, ils ont quand même fait un petit effort pour faire vivre la flamme de ce que décide de l'Atlantique.
D'accord.
Donc, félicitations à eux. Et alors, pour les brigades chimériques, en revanche, là, je n'avais pas de source. Donc,
pour la brigade chimérique.
Tu m'as parlé d'une autre association.
Brigade
Chimérique, c'est un
Méandre Chimérique.
Méandre Chimérique, donc...
c'est un jeu.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
En fait, c'était juste apparemment l'une des deux associations qui s'occupait de faire ça.
D'accord, donc une association française.
Oui.
Qui explique, en fait, pour V20, de mémoire, il y avait juste un seul Français qui était passé par eux. L'association V20.
D'accord, ok. Et enfin, dernière news, le Cassius nouveau est arrivé, Cassius V4.
Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné des vents. Bref.
Alors, oui, effectivement, le D20 résonne, car c'est Black Book qui a repris le flambeau pour l'édition de Cassius. Donc, comme tu peux le voir, il est vraiment très chouette.
Il est vraiment très très beau. Là, chacun tient un exemple ampleur entre les mains et c'est vraiment. Il n'y a pas photo, c'est le plus beau Cassius.
Depuis le premier.
Oui, non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Qu'on n'a jamais vu. Le format, en fait, est très agréable.
Ouais. Ça, on l'avait déjà vu avec Dissident, qui a exactement le même format. L'avantage, c'est que les pages sont larges, donc tu sais, tu as bien le bouquin en main, et oui. Puis en même temps, c'est suffisamment petit pour que tu puisses le lire dans le métro sans ennuyer les gens à côté.
Les illustrations sont de qualité, et c'est impardonnable en 2011 d'avoir des illustrations à la 1990. On a une certaine attente vis-à-vis des illustrations, soit de ne pas en mettre, soit d'en mettre,
oui,
de la qualité.
Ouais.
Et là, elles sont de qualité.
Ah oui. Il y a du beau linge dans dans cette nouvelle édition. Alors, donc, je continue un petit peu mon speech. Donc, je vous disais, Black Book, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet éditeur lyonnais à qui l'on doit déjà les dernières éditions d'un bon nombre de classiques, comme Shadowrun, Earth Dawn, ou un classique français, Polaris, et surtout la locomotive Pathfinder, donc le nouveau, enfin celui qui remplace D3-5, donc Pathfinder et ses milliards de suppléments et de campagnes en tout genre.
Ah oui, mais ils les traduisent pas assez vite, hein, aussi. Non. C'est parce qu'il y en a, remarque, c'est difficile, mais il y en a beaucoup qui sortent en anglais, et... Difficile de tenir le rythme. Enfin bon, on peut pas reprocher non plus.
Ils peuvent pas, je pense, déjà en termes de marché.
Oui.
Même si tu joues 24 heures Mais mon jour 24 heures par jour, je sais pas si tu peux.
Si, quand même.
Je sais pas si tu peux jouer tous les suppléments publiés par Paphane, par Pezzo. Bon, d'un côté, ce genre de truc, c'est aussi fait pour que tu puisses choisir la campagne ou le cadre de campagne qui te convient à toi. Donc, forcément, le choix est quand même plutôt vaste. Bon, pour revenir à ce Cassius, donc tu vois, le magazine est plutôt dodu avec ses 256 pages. Alors, apparemment, la pagination devrait baisser un petit peu dans les numéros suivants. Mais là, il fallait qu'il fasse tout rentrer, je suppose. Donc, pour le contenu, il y a pas mal de fanservice. Donc, avec le retour de rubriques ou de séries que l'on croyait disparues, comme le Bâtisse et Artifice. Alors là, celui-là, d'où est-ce qu'ils sont allés le déterrer?
Oui, c'est pas trop récent,
Donc,
hein.
c'était une rubrique qui était dans le premier Cassius, et qui même avait disparu à la fin du premier Cassius, je crois. Il y a également, et ça c'est plutôt pas mal, je trouve, c'est l'appellation le portrait de famille, hein, qui présente toute une gamme. Là, pour le coup, c'est du Cthulhu. À propos de Cthulhu, dans les auteurs, c'est le grand retour de Tristan Lhomme qui écrit un scénario Cthulhu. Donc le scénario en question, c'est la première partie d'une campagne qui a l'air assez ambitieuse et qui devrait s'achever sur le retour des anciens ou un truc dans le genre. Enfin,
D'accord.
tel que c'est décrit, c'est l'apocalypse arrive car Nyarlathotep marche parmi les hommes. Donc tu vois, c'est il y a
Ce bon vieux Nyarla.
il y a un moment dans un scénario où tu as Nyarlathotep qui est invité sur un plateau télé en même temps que le Dalai Lama et
Ah, mais tu veux dire, il marche à visage découvert?
oui, voilà, oui,
Ah oui, parce
complètement.
que il marchait déjà parmi les hommes dans les masques de Nyarlathotep. Surprise. Mais d'accord, là c'est à
oui,
l'ère
ah oui, c'est cash quoi, ça va
l'immédiat,
jusqu'au
d'accord.
bout. Donc moi je trouve que c'est plutôt réjouissant comme point de départ. C'est
Une sorte de True Blood à la Cthulhu, peut-être?
comment ça,
True
c'est-à-dire?
Blood, c'est cette série télévisée américaine où les vampires ont fait leur coming out. Et,
Ah oui, c'est dans ce sens-là, oui,
voilà.
ok,
Alors
très
peut-être
bien.
que les grands anciens ont fait leur coming out en disant, bon, on hésite encore sur le fait de tout détruire, mais
Ah non, non,
accepter
non.
notre différence.
On est né comme ça. Non, non, pas du tout, c'est pas le principe. Le principe, c'est que les Nyarlathotep et tous ses amis donc prennent de la place sur le plan, enfin, prennent de la place dans les médias et tout ça, et ils sont connus, mais ils ne professent pas le comment dire,
Ah, le mythe.
ils disent pas noir sur blanc. Alors voilà, Cthulhu va arriver, démerdez-vous.
Mais ils disent quand même, je suis Nyarlathotep et je suis vieux d'un million d'années, etc. Ou
Non, en fait, disons, il y a des trucs qu'il dit, mais dont le sens est caché au plus grand nombre, si tu veux.
D'accord, mais en fait,
Et en fait,
il se
il a
présente comme une
fondé
sorte
une
de gourou, en fait.
secte.
Voilà.
Oui, voilà, oui, c'est un gourou.
Et alors, Cthulhu, for President 2012?
Ah oui, du
Ça,
coup.
c'est un truc qui revient tous les 4 ans chez Chaosium,
Ah oui, le Cthulhu for
tous les
President.
gadgets Cthulhu for President et tout.
Et en plus, les affiches sont souvent jolies.
Oui, alors peut-être que là, Nyarlathotep va se présenter, non? Dans le prochain scénario?
Il est plus républicain ou démocrate, à ton avis, Nyarlathotep?
Ah bah. Franchement. Enfin, républicain, c'est un potentiel comique quand même assez donc
Oui,
horrifique
mais
aussi, assez
non,
développé, non?
mais moi je le pense démocrate parce que je pense qu'il souhaite une annihilation égalitaire entre tous les hommes.
D'accord, tu le penses plutôt communiste quelque part, enfin. Ouais.
Non, là, c'est non, j'ai un peu grossi le trait. Je sais pas ce que ça pourrait être pour l'ONU.
Écologiste, il veut arrêter le réchauffement climatique. Il propose des solutions très simples.
Ah oui, d'ailleurs, on déconne, mais dans le scénario, il est un peu écologiste et tout. En fait, il fournit à chaque groupe ce qu'il a envie d'entendre.
D'accord.
Donc, bon.
Élisez-moi,
Alors.
il n'y aura plus de problème de réchauffement climatique après.
Bon, alors passons un peu là-dessus. Donc, c'est du bon vieux scénario d'enquête, Cthulhu, tout ça. Et je trouve que Tristan n'a pas perdu la main. Il écrit toujours aussi bien, donc voilà, c'est un bien bon scénario. Il y a également là, d'autres.
Tiens, j'ai une question parce que j'ai pas suivi en détail la carrière de Tristan Lam, mais donc il a fait énormément de scénarios dans le passé.
Plus d'une centaine, oui.
Dans Casus Belli, est-ce qu'il a fait des je sais bon, qu'il a eu un day job quoi, enfin qu'il est parti travailler dans les jeux vidéo et tout.
Il fait de la localisation chez Blizzard.
Alors du coup, est-ce que il a continué à faire des jeux ou des scénarios ici et là, ou est-ce qu'il renoue avec un ancien amour et que c'est le...
Alors, à vrai dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il a continué. Ou si c'est son premier scénario depuis presque 10 ans. Oui, ah oui, il y a aussi un truc marrant. Donc, il y a évidemment le retour de Croc le Beau, Mongol et Gotha, un scénario donjon, enfin Pathfinder de Croc. Il y a également un autre truc. Tu sais que la tradition de Casus Belli, c'est d'avoir un jeu maison. C'est, il y a eu longtemps... Simulacre,
oui.
Voilà. Donc il y a eu plein de jeux qui Mega. Avaient cette oui Mega etc.
Basique.
Oui après il y a eu le basique effectivement.
Bah, c'est Simulacre quand même qui reste un petit peu le nom.
Ouais disons Simulacre c'était du vraiment maison et basique c'était un.
Mega c'était un jeu à part entière.
Ouais
c'était
un
il
jeu.
Il avait été publié à un moment en tant que.
Oui, tout à fait, oui. Comme hors série et puis en dur chez Descartes. Du coup, j'ai complètement oublié ce que je disais.
Dis-nous, est-ce qu'il y a par hasard un nouveau système de règles dans ce.
Ah, effectivement. Alors, donc, tu le sais sûrement, et il me semble que je te l'avais déjà montré. Il y a quelques temps, Black Book avait sorti une boîte d'initiation qui s'appelait Chroniques oubliées. Et qui était vraiment faite pour l'initiation avec des belles fiches de perso en couleur et tout. Un système de jeu un vaguement dérivé de donjons. Donc avec les Sycarac, mais avec des dons, des faiblesses, des machins comme ça. Mais c'était beaucoup plus light que qu'un Pathfinder. Et il était prévu à la base qu'après cette boîte soit publié... Un gros bouquin qui contiendrait en fait toutes les enfin une sorte de grosse boîte à outils pour se servir de ce qui avait été publié auparavant. En fait, du coup avec Casus, ils ont décidé de mettre tout ça dans Casus. Donc dans ce premier numéro, il y a les règles. Il y a un premier scénario. Dans le prochain numéro, il y aura des classes de perso supplémentaires, il y aura des règles supplémentaires, etc. Et donc, ils vont se servir de chaque numéro pour mettre du matos pour ce système de règles. Et ils ont l'air d'avoir prévu de décliner ces règles en gros en trois univers. Donc, il y aura un médiéval fantastique, un space op et un horreur enquête,
oui.
Un classique quoi.
Ah oui,
les grands genres.
surprise.
Voilà. Donc,
toi qui as lu le début, qu'est-ce que tu en penses?
C'est du quoi du système?
Oui.
Ah, c'est un système façon donjon, hein, je te dis, c'est plutôt c'est simple à prendre en main, il y a plein, alors vu que c'est orienté à initiation, il y a plein de petits encarts pour les MJ débutants, on retrouve le fameux dessin, tu sais, qui avait été, qui servait dans le dépliant Qu'est-ce que le jeu de rôle, qui avait été sorti par,
oui.
Par Casus. Et donc à la base, tu sais, c'était des crapougnas qui étaient autour d'une table de jeu. Et là, ils ont changé, ils ont mis des vrais gens. Je crois que le dessin est encore de Guy Serix, je suis pas sûr. Donc c'est marrant de retrouver exactement ce dessin tel qu'on l'a vu il y a 10 ou 15 ans. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je voulais te parler là-dedans? Non, écoute, c'est un super bon magazine, franchement, c'est vachement bien.
Parle-nous des critiques de jeux.
Oui.
Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que voilà de l'organisation des critiques? Est-ce que ça, c'est bien ça rentre assez dans le détail?
C'est bien foutu.
Est-ce que parfois c'est critique? Enfin, dans le sens, est-ce que ça parfois ça exprime des défauts et pas seulement des qualités? Voilà.
Alors oui, ça exprime des défauts, mais c'est un peu. J'ai l'impression que c'est quand même. Ça reste Cassius, donc c'est du neutre bon. Il y a donc, est-ce que les critiques sont complètes? Oui, ils font des grandes critiques pour les jeux qu'ils méritent. Et après, ça c'est purement choix éditorial. Et donc il y a soit les grandes critiques, soit les têtes d'affiche à l'ancienne, comme on trouvait dans la V1. Alors, petit truc que j'ai regretté, c'est que. Donc tu sais, tu te souviens à l'époque, tout le monde criait que Cassius était évidemment à la botte de Descartes et critiquait toujours bien leur jeu et tout ça et tout ça. Donc là, je suppose que la même chose se produira vis-à-vis de Black Book, hein. Alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y ait des gens de Black Book qui critiquent des traductions de suppléments Pathfinder.
Tu veux dire qu'ils sont elles-mêmes publiées par oui. Black Book, oui.
Oui. Ça, c'est un peu regrettable parce que là, ils tendent le bâton pour se faire battre.
c'est vrai. Eh ben, écoute, peut-être que ça va pas durer.
Cela dit, j'ai lu la critique et elle est même pas gentille.
Ah bon ? N'achetez pas ce book.
Non. Mais ça soulève, enfin, ça met le doigt sur des éléments qui vont pas dans le truc.
Bah écoute, en fait, on va dire que c'est un conflit d'intérêts.
Oui, quelque part. Bah oui, c'est une situation de conflit d'intérêts.
Les conflits d'intérêts peuvent être réglés à deux niveaux. Soit déjà en les déclarant pour que les gens soient conscients de ça. Donc
oui.
Nos auditeurs en sont conscients. Mmh. Et puis les releases sont des grands, donc ils essaieront, je pense, de lire les critiques avec eux-mêmes un peu de sens critique. Et puis, le deuxième niveau, c'est de pas se mettre dans cette situation, c'est-à-dire oui. de confier...
Pas se mettre en porte-à-faux par rapport au sujet qu'on va traiter.
Ce genre de sujet à d'autres... à des gens extérieurs. Donc, ça, apparemment, c'est pas le cas, mais il y a peut-être déjà ce premier niveau où on a connaissance de ce conflit d'intérêts, ce qui permet de prendre des pincettes quand on lit le texte.
Ouais, je sais pas.
Alors que tu as
eu cette impression en fait.
Tu as mentionné le fait que que c'était assez critique quand même sur une traduction sur un produit. Donc les auteurs de Black Book peuvent conserver eux-mêmes leur sens critique.
Ah mais ça j'en doute pas un instant. C'est juste pour le principe en
voilà,
fait.
Mais
voilà.
On est d'accord. Ouais, c'est dans l'idéal. Il faut pas.
Alors, sinon, autre truc que je voulais mentionner. Ah oui, c'est la sortie prochaine d'un jeu qui a l'air assez marrant, qui s'appelle Luchador.
Ça veut dire quoi ça en espagnol?
En fait, c'est les catcheurs mexicains avec des masques. Donc, c'est un jeu qui a été écrit par... je me souviens plus de son vrai nom. Je crois que c'est Wyatt Scurlock, mais je me souviens plus de son vrai nom. Il a écrit ça avec Willy Favre, je crois. Et donc, c'est un jeu où on joue des espèces de catcheurs super-héros avec des pouvoirs. Oui, voilà, ce genre de choses. Donc des catcheurs avec des super pouvoirs dans une région du monde qui est un groupe d'îles dans le triangle du diable, dans les Bermudes. Et au milieu de ce groupe d'îles, il y a une espèce de maelstrom d'où surgissent des créatures d'outre-monde.
En fait, les catcheurs se battent contre les créatures.
Contre les méchants.
Mais qui sont genre capturés et mis dans l'arène de catch ou comment ça se passe?
Non, je pense pas. Mais le jeu n'étant pas paru, j'en sais pas tellement plus. Et voilà, c'est un truc à surveiller. Je trouve ça rigolo. Donc, eh bien, écoute, moi j'ai terminé pour les news. Est-ce que tu as des choses à rajouter?
Non, je n'ai rien à rajouter. Mais je te remercie là pour le Casubelli. Je vais le lire avec attention. Et puis, je crois même que ça me donne envie de m'abonner. On parlait de l'abonnement.
Ouais.
Quelle note on va donner au, au Casus Belli là. Alors peut-être pas le triple A, parce qu'il faut qu'il fasse ses preuves, mais au moins un A+, non?
Ah, ben, un BB plus, un
Un
Black
BB
Book
plus.
plus.
Oui, parce qu'on en discutait tout à l'heure, mais les magazines de jeux de rôle, c'est un petit peu comme les banques centrales et les gouvernements de nos jours. Il faut faire très attention à leurs notes. On peut pas dire qu'ils aient le AAA, hein, le triple A, avec leur passif en matière d'abonnement
Ah
qui tombe
oui.
à l'eau ou en tout cas de parution interrompue.
Oui,
Est-ce
c'est vrai.
que ça vaut le coup de s'abonner à Casus Belli?
Ah bah moi je pense évidemment que ça vaut le coup de s'abonner à Casus Belli, mais cela dit, il est vrai que la question peut se poser pour les gens qui ont été échaudés à plusieurs reprises, genre les abonnés de la version 2 et 3, qui n'ont pas duré
Oui, surtout ceux
très,
qui
très.
sont abonnés juste avant que.
Ah oui, genre au dernier numéro, ils en ont même pas vu un, tu vois. Et en plus, l'abonnement était assez cher. Ah oui, alors donc, comme j'étais abonné à Cassius, j'ai reçu la lettre.
Alors là, Cobal essaye de retrouver une
Ah
lettre
oui.
dans son tas.
Alors je l'ai. Donc, je vous la lis in extenso. Cher abonné à la version 3 de Casus Belli, comme vous le savez sans doute déjà, le magazine Casus Belli auquel vous étiez abonné a cessé d'exister en mai 2011, la société Casus Belli Press étant en grande difficulté financière. Black Book Edition a décidé d'acheter le titre, mais n'a pas repris les abonnés, car malheureusement, BBE ne peut pas se permettre d'offrir le magazine pendant 1 an ou même 6 mois à 500 personnes. Ah, il y avait 500 abonnés?
C'est pas mal.
Ouais, mais tu penses qu'à la grande
Oui,
époque de
ne parlons
Cassius,
pas de ça,
c'était
ça va
plusieurs
me déprimer.
milliers? Alors je reprends. Cela représente une somme considérable en impression et en frais d'envoi pour une entreprise de passionnés qui tente de soutenir le jeu de rôle en France. Relancer Cassius est une véritable profession de foi quand on connaît l'état de la presse, et nous le faisons parce que nous avons grandi avec ce magazine et qu'il ne doit pas disparaître. Du coup, pour votre ancien abonnement, nous n'avons pas de solution miracle, mais une proposition qui peut peut-être vous intéresser. Donc si on s'abonne. Ils offrent le livre de base Midnight, le livre de base Dawnforge, ainsi qu'un scénario Pathfinder parmi la couronne du Rocobold, la conquête du Val Sanglant et les sept épées du péché.
C'est pas mal,
Ouais, ils offrent plein de
franchement.
trucs. Bon, évidemment, tout ça, c'est bien sûr
Oui, c'est des
pour.
stocks.
Voilà, c'est
Enfin,
supprimer des immobilisations pour le bilan comptable. Mais cela dit, ça fait de jeux qui sont pas mauvais en plus. Midnight est vachement sympa.
Oui, ah ouais.
Dawnforge, je connais moins, mais c'est une sorte de steampunk.
Dunforge, il me semble, c'était aussi un des projets qui n'avait pas été retenu lorsqu'il y avait eu le grand concours qui a finalement mené à la création d'un troisième univers pour Donjons et Dragons, Eberron. Dunforge, c'était un univers médiéval fantastique, plus avec un petit goût d'antiquité, en tout cas début des temps, enfin voilà. Et ça a eu quelques suppléments et ça a eu son petit succès, mais ça a pas duré, je crois.
Midnight, par contre, il y a plein de suppléments.
Ouais, et puis surtout, il y a de très très belles couvertures. Enfin,
Oui.
c'est surtout ça
Ah
qui m'a marqué.
bah c'est très dark, hein, puisque c'est un monde où seront à gagner, si je me souviens bien,
Oui.
en gros.
Voilà. Alors, donc, cette offre, elle est réservée aux anciens
Aux
abonnés. D'accord.
anciens abonnés à Cassius
Alors, toi,
version 3.
tu vas choisir quoi? Ah, mais non, mais du coup, tu t'es abonné avant de.
Ah mais en fait j'ai reçu 2 fois le Cassius numéro 1 parce que je l'ai acheté parce que je voulais l'avoir tout de suite pour le critiquer tout ça machin. Et après en fait par la suite j'ai reçu un paquet avec un autre Cassius et cette lettre.
D'accord.
Et donc du coup eh ben je vais avoir ah là là pour la couronne du roi Kobold, ouais ça a l'air sympa. Il y a des kobolds dedans, ça peut pas être mauvais.
Des
Donc
kobolds
voilà.
de cobalt.
Et oui, la couronne de cobalt. Donc voilà ce qui est proposé par Black Book. Bah, c'est vrai que à leur place, je vois pas bien quelle autre solution envisager quoi. Parce qu'effectivement, ils peuvent pas sortir les thunes comme ça de nulle part. Et d'un autre côté, je comprends les abonnés qui trouvent un peu rude d'avoir payé probablement quelque chose comme
Alors,
50 € pour un numéro ou deux
il
numéros.
faut se dire, quand on s'abonne un magazine de jeux de rôle. C'est comme lorsqu'on fait un prêt à une société qui est cotée en C ou D avec une perspective négative. Donc il faut se dire que c'est aussi un pari sur le fait que ça va aller jusqu'au bout. Et bon, là, c'est pas toujours le cas. Mais bon, on peut dire quand même que c'est une société qui a fait ses preuves, hein, même si on va dire leur propre magazine Black Box n'a pas survécu.
Ouais, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas d'équipe à côté en fait pour le faire.
Oui, enfin bon.
Là, ils ont un vrai rédacteur-chef et tout.
Oui, oui, mais enfin, je sais pas si c'est la seule explication. Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de lecteurs. C'était de la formule éditoriale avant tout qui est importante. Mmh. Là, le magazine me paraît beaucoup plus beau que tout ce que j'ai pu voir dans le passé. Il faut encore que je le lise, mais. Ça me paraît très convaincant. Donc, j'espère qu'ils réussiront à mener cette aventure à bien et que que Casus Belli ne connaîtra pas le destin de Black Box.
J'espère aussi. Non, cela dit, le Casus est mieux que le Black Box.
Donc, conclusion de cette news, abonnez-vous. Abonnez-vous. je vais m'abonner.
Ah, tu fais carrément dans le prosélytisme.
Ah bah oui, enfin, je sais pas. En même temps, c'est...
C'est
important d'avoir un
vrai magazine.
En fait, la communauté du jeu de rôle s'est un peu cristallisée autour de ces magazines dans le passé. Alors, je dis ces magazines parce qu'il n'y a pas eu que Casus Belli quand même, hein, entre Dragon Radieux, Graal,
Chronique d'Outre-Monde,
Backstab, Chronique d'Outre-Monde, et on en oublie.
Plasma.
On quitte les kiosques en fait. Donc, je parle des magazines qui étaient disponibles.
Il y avait Dragon.
En kiosque. Dragon
Mag.
Ah, oui, tout à fait, Dragon.
Qui était super bon.
Avec du bon matos. La communauté n'est plus structurée autour de ces magazines. Internet a pris le relais. Mais pour faire vivre un peu. Pour servir de liant, de fil commun un peu général, à part le grog, bah, un truc comme Casus Belli, c'est vraiment super, quoi.
Et je le trouve vachement complémentaire à Dissident, qui est beaucoup plus, que je trouve, plus incisif.
Oui.
Et du coup, moi, ça me dérange pas d'avoir un mag comme Casus qui avait donc, tu sais, la réputation d'être plutôt sympa, quoi.
Oui.
Et en fait, je préfère, parce que c'est comme ça que Casus est bien.
Oui, tu veux dire que dans la marque Casus, quelque part, on s'attend à...
Oui, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine dose de sympathie, on va dire.
D'accord, de bienveillance.
De bienveillance.
Si possible, pas trop complaisante.
Oui. Ouais.
Mais voilà, qui donne une ambiance plus vraiment ludique et relaxe. Et, voilà. Là où peut-être sur Dissident ou peut-être sur les traces de Backstab, c'est plus ça peut être plus caustique parfois ou c'est ça que tu veux dire ?
Oui, ouais, je pense. Enfin, après c'est une question de ton du magazine qui peut changer.
Alors c'est amusant parce que quand on discute avec les gens, les gens qui ont été rôlistes dans les années 80. Un des mots qui surgit de cette époque, c'est Casus Belli. C'était vraiment ça qui faisait partie de la définition du rôliste à l'époque. Casus Belli, on lisait tous Casus Belli. Mm. Et bon, cette époque est finie, mais c'est impressionnant de voir à quel point les gens qui ont effleuré le monde du jeu de rôle, qui n'y sont pas forcément rentrés beaucoup, ils reconnaissent quand même le nom Casus Belli. Ça reste une marque assez forte et ça le restera toujours.
Oui,
pour ceux de
cette
époque.
Mm. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a terminé sur ce sujet et que nous allons pouvoir passer au premier jeu. Et donc, je vais te parler de Shade. Bon, Cyril, je vais maintenant te présenter un magnifique coffret. Donc, qui est en fait le premier vrai supplément du jeu Shade, dont j'ai fait la critique dans un ancien numéro. Donc je te resitue un petit peu le jeu peut-être. Donc les aventures se déroulent dans un univers de type Renaissance italienne, sur une île qui s'appelle Néolime. Donc dans cet univers, les dieux sont un triumvirat de déesses de la lumière, et il y a une déesse des ombres qui s'appelle Sélène. Les persos sont des Tenebrozzi, donc des êtres qui sont dotés d'une ombre vivante. Ton ombre, quand ton ombre est projetée au sol, tu vois, là, machin, elle peut se déplacer, lancer des sorts, etc. Donc cette ombre, dite ombre primordiale, peut utiliser la sorcellerie et suivre une voie magique particulière. Donc je te les avais décrites, il y en a plusieurs, enfin il y en a plein. Donc ce supplément en particulier, donc c'est un grand coffret en véritable carton, très joliment, enfin, joliment illustré. Dans celui-ci, il y a un livret pour le meneur de jeu qui, donc déjà, il contient un guide pour présenter Shade aux joueurs et aller plus vite dans la, c'est dans la description, dans la. Je viens de perdre la boîte de la boîte de Shade. Bref.
Le tas avec un T majuscule vient de s'effondrer à moitié.
Je disais, il y a quelque chose qui sert pour présenter Shade aux joueurs, et ça, c'est vachement bien pour les nouveaux meneurs dans un univers qui est quand même un petit peu touffu, un petit peu complexe, et tout. Ça vaut le coup d'avoir ce genre de choses. Il y a donc un résumé du background et de ce que propose le jeu. Il y a des conseils de maîtrise. Il y a toute une galerie de PNJ un peu typiques, un peu archétypaux, qui vont te servir dans toutes les occasions classiques. Ce qui est sympa, c'est que les PNJ, en fait, il y a une iconographie qui fait que cela permet de choisir des personnages d'un certain type de puissance, que ce soit dans l'interaction, dans la duel sociale, ou que ce soit l'épée, ou voilà. Il y a trois scénarios et il y a une grande carte format A2, donc double face. Donc d'un côté, il y a le continent de Néolim et de l'autre côté, il y a le plan de la ville de Clémence. Donc la carte est super jolie, type vieille carte de marine ou je sais pas quoi. bien bien sympa, du beau matériel. Ah oui, il y a également donc un écran géant en béton.
Alors, il n'est pas géant quand même, faut pas exagérer, mais il
Il est
est très
assez
bien.
costaud et il y a également un écran du joueur car
Ah oui, non, ça
c'est
c'est
un.
l'écran du joueur que je tiens en main.
Oui,
D'accord.
ça c'est l'écran du joueur. Non, 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 non. Celui qui est tombé,
Oui, alors,
c'est
d'accord,
celui
oui,
qui est là.
c'est pour
Ouais,
ça qu'il a
voilà.
fait tout ce bruit. Et alors, l'écran du maître de jeu, il a une particularité que tu aimes bien, je crois.
Oui, c'est ce que je disais, il est en béton, il peut résister à une charge de
Non,
Panzer.
une autre particularité, il n'y a pas les numéros des pages? C'est pas sur celui-là, non?
Il y a les numéros des pages. Ah, mais non, c'est Antoine qui disait
Oh là
ça.
là, putain. Moi, je retire ce que j'ai dit alors.
D'ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Enfin, c'est pas ça qui
Et
m'attire.
l'écran du joueur est magnifique, hein? Un petit écran.
Donc oui, ce qui est amusant, c'est que chaque joueur a son écran. Ils ont sorti un pack avec 5 écrans,
Chaque
je crois.
joueur?
Ouais, chaque joueur
D'accord.
a son écran. Ça, c'est pour permettre de cacher ses petites bidouilles. Également, il y a un truc qui est super bien foutu, je trouve, et qui, à mon sens, manque à un jeu comme les Ombres d'Esteren. C'est que dans le premier supplément, t'as un gros paragraphe qui te dit. Alors voilà quels sont les secrets principaux du monde. Voilà donc à peu près dans quelle orientation la gamme va aller. Et les auteurs di disent voilà, on vous donne ces infos parce que ça vous permet de commencer de jouer tout de suite, mais sans vous gâcher ou vous couper la possibilité de retomber sur la gamme de base parce que vous aurez déjà trouvé d'autres solutions
Oui.
au trou dans le background qu'il y a.
D'accord.
Et donc ça sert à attendre l'apparition d'un deuxième tome, enfin d'une deuxième d'un autre supplément qui sera entièrement consacré au MJ et qui, si je me souviens bien, s'appellera Revelation.
D'accord.
Donc voilà, j'aime beaucoup cet état d'esprit, cette façon de faire. Je trouve ça vraiment respectueux du joueur en fait.
Oui.
Et voilà, c'est un très bon supplément pour les gens qui jouent déjà à Shade. Je pense que c'est indispensable en fait.
D'accord. Alors donc c'est vendu sous la forme d'une boîte?
Oui, c'est une boîte.
D'accord. Et donc tu disais, il y a un écran pour chaque joueur.
Ouais.
Donc il y a plusieurs écrans du joueur à l'intérieur de la boîte.
Pas dans la boîte de base, non.
D'accord. Donc mais ils sont, on peut les acheter à part ou?
Oui, oui, oui.
En théorie, chaque
mais
joueur
c'est,
doit.
C'est ce que j'ai dit. Ils vendent également un pack, voilà, où il y a 5 écrans de joueurs dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air troublé.
Non, non, mais.
Tu ne comprends
c'est
pas.
L'âge.
Tu quoi?
C'est l'âge.
C'est l'âge. Ah. Oui, je vais pas m'étendre plus que ça. Je vais tout de suite te passer la parole.
Merci Cobal. Alors moi je vais vous parler de Sleep City. Donc il y a un jeu de rôle au complet de la collection Clé en main qui est publié chez les 12 singes. En fait c'est un jeu de rôle très léger hein, puisqu'il y a pas grand chose. Il y a un livret qui fait, c'est moi regarder, 64 pages, hein, quelque chose comme ça. Et puis ensuite il y a des petites fiches volantes qui permettent d'avoir à la fois des règles très simples et des fiches de personnages avec illustrations prêtes à l'emploi. Donc il y a combien de fiches de personnages? Il y a 10 fiches de personnages. Et enfin il y a un truc qu'on retrouve dans les campagnes de l'appel de Cthulhu par exemple ou ailleurs, c'est des petites aides de jeu, des indices en fait, des indices en couleur qui permettront aux joueurs de progresser, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Alors, Sleep City, donc, comme son nom l'indique, explore le thème du solipsisme, qui est cette idée...
C'est une maladie grave, non?
Oui, quelque part, ça peut être une maladie grave. Si quelqu'un est solipsiste, ça veut dire qu'il est... Il est fou, allié, et qu'il peut être même potentiellement dangereux, puisqu'il va juger qu'il est le seul à exister. Donc si les autres personnes n'existent pas, c'est qu'on peut leur faire ce qu'on veut, et ça ne changera rien. Le solipsisme, ici, c'est les joueurs qui se réveillent dans leur bonne ville de Manhattan, enfin de New York, et qui réalisent qu'ils sont tout seuls, en fait. Que les voisins sont partis sans laisser d'adresse, et qu'il n'y a plus que les bâtiments.
Ah d'accord, ils sont seuls dans la ville.
Ils sont seuls dans la ville.
D'accord.
Donc, passer le premier choc, ils finissent par s'organiser, se retrouver, et ils vont devoir comprendre ce qui se passe et essayer de trouver d'autres personnes. Et bon, c'est juste le début, hein. J'essaie de pas trop, enfin de rien révéler parce que ce serait dommage du scénario. Enfin, c'est pas un scénario d'ailleurs, c'est une campagne quelque part, puisque il y a 5 scénarios à l'intérieur de ce livret. Donc bon, c'est pas des scénarios très très longs, mais apparemment ils sont censés durer de 6 à 8 heures chacun. Bon, je sais pas s'ils dureraient vraiment autant pour être honnête, mais c'est sûr qu'on peut toujours filer les aventures, les faire durer un petit peu plus effectivement. Donc,
ce que tu veux dire, c'est que par rapport au matériel fourni, on tient pas 6 heures dessus quoi.
Non, je dis pas ça, je dis que on doit certainement pouvoir faire plus court que 6 heures par scénario. Il y a 5 scénarios
à l'intérieur. Ah d'accord, ok, j'entends. Donc, je comprends
là,
mieux.
La promesse entre guillemets de la quatrième de couverture, c'est finalement entre 30 et 40 heures au total de jeu. C'est tout à fait possible que ça soit ça. Si ça se trouve, on peut le faire plus rapidement. C'est juste, voilà. Je ne dis pas que c'est pas que ça peut pas le faire simplement. Bon, ouais, faut garder en tête que c'est un scénario de 60, enfin c'est un livre de 64 pages et que voilà. Alors il est très intéressant. Le thème change un petit peu des thèmes habituels. Comme d'habitude, avec un jeu français, ça se passe aux États-Unis. Ça va finir par devenir une marotte, mais c'est vrai que quand on y pense. ça fait beaucoup de jeux qui se passent aux États-Unis. Là,
Alors que ça pourrait se passer dans les Deux-Sèvres, ce serait
ah
pareil.
bah tout à fait, hein, ou à Mayotte, ou à Chalon-sur-Saône, ou enfin bref. Là, en fait, un des personnages les plus importants, finalement, c'est quelque part la ville de New York, puisque toute la campagne va se dérouler là-dedans. Donc, c'est peut-être un scénario qui plaira beaucoup à ceux qui veulent visiter quelque part la ville par l'intermédiaire du jeu, parce que voilà, l'auteur a pris soin de mettre en valeur des tas d'éléments de la ville, hein, de ses musées jusqu'à ses taxis, etc. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi dire, parce que visiblement, il est assez rapide de dévoiler l'intrigue, mais c'est pas le but.
D'accord. Et donc ça se passe tout en ville?
Ouais.
D'accord.
Enfin, non, non. Enfin, pour être honnête, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer encore une fois sans dévoiler l'intrigue, mais il peut se dérouler. Enfin, oui, on va dire oui. C'est que Manhattan. Voilà.
D'accord,
Que
ok.
Manhattan. Donc, on peut pas vraiment quitter la ville. Enfin, les personnages pourront le découvrir, mais enfin voilà,
Tout ceci me paraît bien mystérieux.
ils doivent résoudre le problème comme ça. Et alors, il y a beaucoup en jeu, hein, puisque ils se retrouvent tout seuls. Alors, est-ce qu'ils sont fous? Ils peuvent se poser la question. Est-ce qu'ils sont drogués peut-être? Ou alors, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a d'autres explications? Et puis, est-ce qu'ils sont seuls déjà? C'est aussi une vraie question. Et quand ils voient d'autres personnes, voilà. Qui sont ces personnes et pourquoi elles sont là et pas les autres. Enfin, voilà.
D'accord, ok. Ok,
Je ne veux pas en
bon.
dire plus parce que. Alors,
Alors.
je peux juste dire ce que j'en ai pensé. Bah, que du bien. Hein. Moi, j'ai bien aimé l'idée de base.
Oui.
Et je pense que c'est un. Enfin, voilà. Moi, si je devais le faire jouer, je pense que ça ne durerait pas autant, hein, très clairement. Je n'irais peut-être pas jusqu'à le faire en 3 heures, mais. Ça ferait juste un scénario classique normal. Maintenant, je surestime peut-être un peu la vitesse à laquelle on peut jouer ce scénario. Et en tout cas, c'est une bonne idée. Et j'ai apprécié la fin aussi. Enfin, alors, je vais pas en
Oui,
parler
bien
plus.
sûr.
Juste pour dire que bah, j'ai trouvé que le concept général était intéressant
Ça, c'est une histoire qui se tient.
Oui, alors c'est une histoire un peu à la Madsen quelque part, l'auteur de science-fiction.
Ah, Matheson, je connais pas du tout.
Enfin, bah, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de, y a pas d'ovni qui débarque ou il n'y a pas de trucs extraordinaires et flashy, mais
Ouais.
on est bien dans l'étrange.
D'accord, ok. Très
Enfin,
bien. Ah, mais
voilà.
ça peut être super.
Et voilà, donc il y a la ville qui est présentée, hein, Harlem, Central Park, avec le livre s'attache pas à décrire la ville, hein, mais ça peut être utile justement de se procurer peut-être un guide de New York ou d'autres sources pour les exploiter dans le jeu, sachant que le livre c'est surtout le scénario en question.
Ok, très bien. Et quel est le matériel
Bah
qui est
donc,
fourni
comme
avec?
je l'ai dit, donc il y a le livre lui-même qui contient la campagne. Il y a les 6 fiches recto verso de règles,
Ouais.
10 fiches recto verso de personnages. Voilà, donc Mira Almond, journaliste, un geek, un professeur de yoga, un policier, enfin des classiques, hein, un détective privé, genre de choses.
D'accord, ok.
On va dire que ça fait très investigateur. Enfin, voilà.
Et donc c'est
Et
un...
puis, juste pour finir de
Oui, je t'en
répondre,
prie.
donc des aides de jeu couleur. Il y en a 7 petites pages donc où il faut découper, puis il faut les présenter aux joueurs.
Découper, coller.
Non, pas besoin, mais il faut les présenter aux joueurs au bon moment, c'est
Chose
tout.
qui n'a pas été dite, donc c'est un livre de petit format,
Oui,
donc
oui, oui,
c'est
oui.
du A5,
Ouais.
et qui coûte combien?
Alors, qui coûte 29,80 centimes.
D'accord.
Et alors, ils ont mis un tampon dessus pour MJ expérimenté.
Oh,
Voilà.
Et tu es d'accord avec la vision des auteurs?
Oui, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle un MJ expérimenté, mais je pense que ça dépend surtout de si le MJ est familier de ce genre de thème, s'il aime bien un peu les exercices intellectuels comme ça.
D'accord.
Dans ce cas-là, ça sera facile pour lui. Alors que s'il est plus terre-à-terre et qu'il lui faut des situations beaucoup plus concrètes et classiques...
Uh-huh.
Ce sera peut-être plus difficile, même s'il est expérimenté.
D'accord.
Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ?
Oui, très bien, parfait. Bon, très bien, merci. Alors, eh bien, à moi, je vais te parler de Wurm, ou de Wurm.
Alors, pourquoi tu te poses la question ? Parce qu'il y a un tréma sur le U, non ? Donc, il faut dire...
Oui.
Il faut dire et... Wurm.
Ah bon ?
C'est pas, non ?
Ah bah, je sais pas. Ok, bon, bah, Wurm, alors.
Il me semble, enfin, je... Je crois.
Tu voudrais pas.
Non, il me semble. Enfin, je suis pas sûr. Hein. Faudrait demander à l'auteur. On va dire que c'est lui qui décide. Mais...
Avant Wurm, je te propose qu'on fasse une pause muscadet.
Ah, laisse-moi réfléchir. D'accord.
D'accord. Alors, Cyril, je vais donc te parler de Wurm. Parce que nous avons décidé à l'unanimité de nous deux que ça s'appellerait Wurm.
Ah mais c'est toi qui vois, hein.
Moi, ça me paraît bien. Donc, Wurm...
D'ailleurs, je me dis, excuse-moi, je t'interromps déjà, mais Wurm, c'est pas nom d'une glaciation, d'une période de glaciation, un truc du style ?
Si, c'est exactement ça.
D'accord.
C'est le nom d'une période glaciaire.
Donc, il y a un nom officiel quelque part.
Oui, c'est vrai.
Ok, donc on pourra se documenter et trouver la réponse.
Comment tu savais que c'était le nom d'une période glaciaire? Alors là,
je suis allé à l'école, moi. J'ai pas grandi dans un magasin de jeux de rôle à la cube, hein, du style. Figure-toi que j'allais au lycée.
Bon, donc je reprends mes voilà. Wurm est un jeu qui permet d'incarner des hommes préhistoriques. Donc pendant la période glaciaire en question.
C'est quoi la préhistoire?
Oui, c'est la préhistoire.
Alors,
puisque j'ai dit homme préhistorique.
C'est quoi la préhistoire?
Alors, c'est la donc ça se déroule très exactement à 100 000 ans près, dans la période où l'on pense que les Homo sapiens ont pu côtoyer les hommes de Néandertal.
D'accord.
Voilà.
Mais ils donnent pas la date, c'est ça?
Si, ils donnent un intervalle de temps. Non, c'est le jeu. Enfin, je vais y revenir, mais. Le jeu est hyper documenté.
D'accord.
Voilà. Donc, ce jeu est paru aux éditions Icar dans un format BD de 146 pages. Donc, tu vois, c'est un beau bouquin. Donc, le livre est vraiment très beau. L'auteur du livre, Emmanuel Roudier, est également auteur de bande dessinée dans lequel il parle de quoi ? Je te le donne en mille. Ça parle d'homme de Néandertal.
De quoi ?
D'homme de Néandertal. Wouhou ! Et donc il a entièrement illustré son jeu et comme tu peux le voir c'est vraiment beau.
Oui, c'est ça plonge.
Ça plonge complètement dans l'univers.
Ouais, les situations, je suis pas sûr qu'elles soient très très réalistes.
Oui, mais ça c'est le.
C'est le délire de quelqu'un qui a.
C'est en fait ça c'est un chapitre sur les esprits. Donc ce que tu vois, n'est pas forcément super réaliste pour cette raison-là.
Oui, parce que sinon ça donne envie d'habiter durant l'âge des glaces, non ?
Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc le livre est très beau avec il y a quelques pages en couleur qui mettent encore plus en valeur les dessins, comme celle que tu regardais justement sur les esprits. En revanche, je trouve que la mise en page est un petit peu scolaire, peu rigide, un peu triste par rapport aux dessins qui l'illustrent et qui eux sont vraiment super super beaux. Ça pêche un peu par la mise en page. Bon, sur le contenu maintenant, donc le livre aborde tous les aspects de la vie quotidienne d'un homme préhistorique, donc logement, artisanat, art, outils, la structure sociale et tribale. Les esprits, le chamanisme, tout ça. Donc tout est décrit avec une grande richesse de détails. C'est vraiment un super passionné, le gars, ça se sent.
Est-ce que par hasard tu avais déjà vu ces bandes dessinées avant?
Non, je n'ai jamais lu ces BD, je suis jamais tombé dessus.
Il y en a beaucoup parce que peut-être ça vaut le coup de...
Je crois que d'après la bibliographie... Il me semble que dans sa série Néandertal, il a dû faire 3 tomes. Et il me semble qu'il y a une autre série et où il y a moins de volume, je ne sais plus. Oui, donc comme je le disais, il y a beaucoup de détails. Par exemple, lorsque tu vas à la chasse, il te donne le poids moyen de l'animal que tu vas tuer.
Ah oui, parce
Et
qu'il faudra le transporter.
si tu n'es pas en situation d'exploiter entièrement la carcasse, genre parce que l'odeur de la bête va commencer à attirer les fauves et il faut que tu sois parti avant. Dans ce cas, tu prélèves juste un cuisseau de la bête et tu t'en vas avec.
Oui.
Et pour ça également, il te donne le nombre de parts de nourriture que ça fait en fonction du type d'animal.
Ça veut dire que les personnages passent beaucoup de temps à chasser et à essayer
Ah bah
de...
c'est un jeu qui permet de se plonger dans la vie quotidienne d'un homme. D'un Homo sapiens ou d'un homme de Néandertal. Donc, avec tous les aspects de la vie courante, parce que
C'était quoi? C'était l'âge de pierre? Il n'y avait pas de bronze, il n'y avait pas de fer. On savait pas le forger.
non, 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 c'est
On avait
des.
domestiqué le feu à l'époque.
Oui, ouais. Il y a le feu, et puis, il y a de l'art, donc il
Oui,
y a les trucs
d'accord.
dans les grottes et tout
Est-ce qu'il y a
ça.
des villages qui se font la guerre, genre de choses?
Non, on peut pas encore vraiment parler de village parce que les structures d'habitation sont des trucs vraiment légers, genre des tipis ou des
Il
trucs de genre ou
n'y a
des
pas
grottes ou
d'agriculture,
des
c'est juste de la chasse, de la
cueillette,
pêche et de la
chasse, pêche,
cueillette. D'accord.
cueillette, ouais. Et il y a une grosse partie sur le chamanisme et tout, parce que c'est aussi un petit peu ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est que tu as les esprits qui tutélaires qui sont avec toi. Le personnage, lorsque tu le crées, il a une force et une faiblesse. La faiblesse est purement humaine, on va dire, genre t'es boiteux, sourd, enfin bref, des trucs comme ça. Et dans ses forces, c'est la force du grizzly, enfin la rapidité du
Et
lièvre.
c'est une qualité que chacun a, mais différente.
Voilà. Et c'est un peu son animal totem, si tu veux. Et c'est uniquement sur cet aspect-là du totem. Parce que c'est pas parce que t'as un totem lapin que t'auras des grandes dents, tu vois. C'est uniquement pour la rapidité.
Est-ce que le jeu se déroule en Europe ou ailleurs ou on ne sait pas?
Ben, en fait, c'est pas vraiment décrit. D'ailleurs, il y a un truc que je regrette. C'est super bien décrit pour tout ce qui est vie quotidienne, tout ça. Il y a énormément de choses. C'est vraiment passionnant. Mais par contre, il y a rien sur l'environnement lui-même, c'est-à-dire la structure du paysage, le climat. Est-ce qu'il y a des forêts ou non? Le type de végétation qu'on peut rencontrer en fonction des lieux. Parce qu'il y a dans le bouquin, il y a pas mal de lieux qui sont décrits avec le, enfin, qui sont décrits en un court paragraphe, en gros en un millier de signes. Il te décrit un cadre particulier, genre, je sais pas moi, les marais, tu vois.
D'accord.
Et il te donne un indice des dangers que tu peux rencontrer ou de ce genre de choses. Mais tu dis pas quelle plante y pousse, quel animal tu peux chasser. Voilà, ça c'est un truc qui manque à mon avis.
Ah oui, c'est juste une page, les lieux d'aventure, c'est ça?
Ouais, je trouve que c'est un peu léger.
Bon, ça permet de se faire une idée de manière très, très générale la façon dont étaient considérés les environnements, les montagnes
Oui, bien
dangereuses, les
sûr,
forêts dangereuses,
mais.
les vallées dangereuses, les marais, enfin tout était
Tout est
dangereux en fait.
dangereux. Les forêts dangereuses, bref. Mais tu vois, pour comparer avec un jeu que tu aimes bien, par exemple dans Toan, je me souviens qu'il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est que, par exemple, lorsqu'il décrivait les plateaux du monde à étage, tu avais à chaque fois le type de végétation que tu pouvais rencontrer avec le nom
Oui.
des arbres et des trucs et
Il y avait beaucoup de géographie concrète, oui.
Ouais, voilà, et en fait ça aide vachement pour se projeter dans le paysage et mettre la végétation qui est correcte, si tu veux. Et
Oui.
ça, parce que ça apporte de la
D'accord,
variété aussi.
oui.
Parce que
Ouais.
s'il y a.
Et là, ça manque un petit peu à l'appel. Mais c'est un jeu tout en un ou il est prévu qu'il y ait des...
J'ai pas vu de. J'ai pas vu de supplément.
En même temps.
Mais je pense qu'il se maintient, il se tient en lui-même, si tu veux.
Oui, j'imagine. Enfin, encore une fois, c'est. On vit à l'ère du transmédia, etc. Enfin, du cross-média. Donc il y a des bandes dessinées qui existent. Si j'ai bien compris, c'est des suppléments tout trouvés, enfin, des sources d'idées et de décors.
Et d'aventures.
Et d'aventures pour le. Pour le jeu de rôle.
Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, il y a une partie chamanisme qui est très importante, dans le sens où, dans le système de jeu, l'esprit tutélaire de la tribu, machin, tout ça, enfin, du groupe de PJ, il te donne des dés, dans un espèce de pool de dés au début de partie, et en fait en cas de besoin les personnages peuvent taper dedans pour enfin les joueurs peuvent taper dedans pour ajouter un dé à leur action, etc. Donc le système de jeu est très simple, c'est 2d6 contre un seuil de difficulté.
D'accord.
Avec le jet moyen à 7, normal quoi. Et donc tu vois que ces dés en plus, ça apporte quand même un sacré coup de pouce parce que ça tu peux avoir jusqu'à 6 points de plus pour accomplir ton truc. Et ça passe carrément des barrières pour le personnage.
Là, je viens d'ouvrir une page un peu au hasard et je trouve ça très intéressant. Ils parlent du langage. Ils disent que Cro-Magnon est totalement semblable à nous physiologiquement. Et le raffinement de sa culture, même à cette époque lointaine, nous donne la certitude qu'il maîtrisait un langage très complexe. Qui veut dire un langage très complexe, veut dire aussi qualité et diversité des idées exprimées par les mots. Et donc on peut imaginer que c'est pas du tout des gros sauvages.
Ah bah non.
Et que ce qui change eux par rapport à nous, c'est notre connaissance de l'histoire et notre technologie.
Oui.
Mais que fondamentalement, ils ont les mêmes réflexes, la même intelligence, la même fourberie qu'on peut avoir.
La taille du cerveau était déjà la même à cette époque. Puisque c'était déjà des Homo sapiens sapiens ou des Néandertals. Oui, parce que il y a aussi ça qui est amusant, c'est de jouer des hommes de Néandertal qui sont beaucoup plus costauds.
Oui.
Oui.
Les hommes de Néandertal, c'est eux qui n'ont pas survécu dans la grande course à l'évolution.
On ne sait pas en fait.
Peut-être des joueurs de Wurm qui les ont exterminés. Et je crois qu'en fait, on a un peu de gènes de Néandertal. Il me semble, je peux dire de bêtises, je ne suis pas paléontologue ou préhistorien, mais qu'il y a eu quand même une certaine mixité génétique. Enfin, je me demande si on n'a pas aussi des gènes de Néandertal et s'il n'y a pas eu des échanges entre les deux populations à un moment.
Ah ben oui, les deux espèces étaient vachement proches, donc c'est possible. Bon, je reprends sur le jeu. Il y a quelques caractères qui sont importantes. Enfin, il y a quelques trucs qui sont importants. Par exemple, l'endurance. L'endurance dans ce jeu, donc, elle est définie par un score de base qui est identique pour tous les personnages. Mais en fait, étant donné que ça, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus important, c'est la survie. Donc plus ton personnage a de points d'endurance, plus il vit longtemps. Et en fait, cette caractéristique, c'est quelque chose que tu peux augmenter avec l'expérience. Et donc, en fait, ça me faisait aussi un peu penser à Toen pour ça, pour le côté, c'est la jauge d'héroïsme qui augmente. Et il y a également deux autres scores qui sont importants. Ce sont Alors, j'en ai oublié un. Alors, il y a la bravoure et le second, la bravoure donc et la générosité.
La générosité, ça alors, c'est marrant. Et oui. comme caractéristique dans un jeu sur la préhistoire. Pourquoi la générosité? J'imagine que l'union fait la force pour les hommes de la préhistoire.
Oui, évidemment, il y a tout le temps la notion de tribu et de groupe, quoi. Parce que sinon, à eux tout seuls, ils peuvent pas se le faire, le mammouth. Donc, la générosité, disais-je donc. Donc, le personnage gagne des points de générosité en faisant des dons à ceux qui l'entourent et en leur rendant des services. Donc, c'est en fait la bravoure et la générosité, en fait, sont des éléments qui servent à déterminer ton statut dans la tribu.
Ah.
Et à savoir si tu es suffisamment sage et bon finalement pour diriger le destin d'une tribu.
D'accord, et ça peut être un but, par exemple, pour les joueurs, c'est de devenir le chef de la tribu.
Voilà. Et donc, en plus de ces éléments-là particuliers, il y a bien sûr des tonnes de talents pour toutes les activités des personnages et surtout beaucoup de talents d'artisanat qui sont extrêmement détaillés, super intéressants d'un point de vue historique.
C'est quoi un artisanat? Tu as un exemple?
Je sais pas, sur le tannage des peaux, sur la confection de vêtements, la confection d'outils également.
D'accord. Oui, enfin, donc faire des silex, c'est ça, des pointes de
Et
silex,
puis
ce genre de
il
choses.
y a, tu te rends compte qu'ils faisaient aussi du minage en quelque sorte, parce qu'ils vont à des endroits où ils savent qu'ils peuvent trouver ou du silex ou ou différents types de matériaux.
Ok. Et en fait, dans le cadre de ce jeu, en tout cas, ils sont spécialisés. Les personnages sont chacun un petit peu leur spécialité au sein de la tribu, ou enfin, y en a un, c'est le spécialiste de la chasse, l'autre le spécialiste artisan qui fabrique les hachettes ou je ne sais quoi.
Non, non, pas précisément. Tu peux prendre tes talents comme tu veux. Voilà. Alors, il y a évidemment tout ce qui est talent magique. Donc, pour les chamans ou pour ceux qui font de la sorcellerie, donc tu as y a des fabrications de potions, il y a des malédictions. Il y a plein de trucs comme ça qui sont très tribaux et qui contribuent beaucoup à l'ambiance comment dire, des premiers temps du monde, tu sais. C'est un environnement entièrement sauvage où il n'y a pas de pollution lumineuse puisqu'il n'y a pas d'électricité. Où tu as juste ta tribu avec ton petit feu et des immensités tout
Ah
autour
oui,
de toi.
c'est comme à Koh-Lanta en fait. Il faut
Oh putain, mais tu casses tout,
éviter que le feu
tu me
s'éteigne.
dégoûtes.
Et ils ont tous la dalle.
Tu me
Ils veulent
dégoûtes.
tous prendre une douche.
Ah, t'es nul, j'étais dans une grande envolée lyrique et tu me casses tout. Bon. Bref.
Mais ceci dit, c'est évocateur. Donc tu as
Ouais.
dit, c'est la nature, c'est sombre, c'est froid, t'es seul dans ta caverne, et puis dehors, voilà, c'est une espèce de mur d'obscurité et de
Ouais.
ténèbres. Je sais pas
Et
ce qu'il y a
donc, il
autour.
y a plein de. Du coup, forcément, ça génère plein de croyances et tout ça. Et là, c'est utile en jeu. Donc, forcément, lorsque ça te donne des points, forcément, ton perso arrache le foie de la bête qui vient de tuer et mord dedans pour prendre sa force. Tu vois? Et ça marche vraiment. Donc, du
Dans le
coup.
jeu, ça marche. C'est-à-dire
Ouais,
qu'il y a
ouais.
des règles qui permettent, d'accord.
Oui. Et oui, ça donne juste un petit bonus. Enfin, bref, un truc. Et du coup, ça contribue beaucoup au roleplay et à l'ambiance. Ah,
Donc alors, oui.
également, le jeu propose, si tu veux, un jeu plus fantastique. Il y a plein de créatures. Il y a des géants, y a des trucs comme ça. Il y a un dragon.
Ah oui, mais alors donc ça fait pas partie de la version de base du jeu, on va dire. C'est
Ah, si, si,
présenté
si.
comme une option, non?
Non, non, c'est pas du tout présenté comme une option,
D'accord, donc en fait, c'est pas un jeu qui se veut réaliste.
mais en fait, moi, je pense tel que pour moi, la meilleure façon de l'exploiter, c'est en faisant de la magie la plus discrète possible. Et je pense que les effets du chamanisme, tu sais, qui sont purement
Visuel.
non non justement qui ajoutent juste des scores ou des machins et qui n'a pas d'effet type feu d'artifice, je pense que c'est plus adapté. Mais
Suis
il
d'accord pour l'effet
propose.
placebo, mais pas forcément pour voilà,
Ouais, voilà, mais je trouve que.
les graphismes en 3D avec explosion et
Oui,
décor.
voilà, avec des FX de ouf. Non, non, enfin, moi je pense justement que c'est plus intéressant d'avoir une ambiance type Raon, tu sais, où
D'accord, ouais.
il appelle les dieux ou tout
Alors,
ça.
une partie typique, c'est quoi? C'est un scénario, ça va être le rhinocéros laineux Ah non, la chasse aux rhinocéros, enfin,
Non, il y a aussi des intrigues politiques. Quand le chef de la tribu d'à côté dit machin chose ou je sais pas quoi, ou a jeté une malédiction.
Ça, le sujet est peu exploité. Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire du jeu de rôle.
Il y a eu
du GURPS, certainement.
Il y a eu un GURPS. Et il y a un recueil de scénarios Cthulhu qui s'appelle, je sais plus, Strange Place, un truc comme ça, dans lequel on peut faire un scénario homme préhistorique, où on est un homme préhistorique. Et c'est, je crois que c'est à peu près tout.
Ouais, il y a autre chose, hein. C'est pas possible.
Oui, il y en a forcément. Il y en a forcément, mais oui, en plus j'ai joué à un jeu amateur de ce type il y a une quinzaine d'années, donc. Donc voilà,
y a la vallée des mammouths.
Mais c'est un jeu de plateau.
Oui, on peut voler des femmes.
On peut voler des femmes, oui. et souvent, on se fait tuer par l'hiver. Et le jeu gagne. Donc, oui, ce jeu est vraiment, vraiment très beau. Et
est-ce que ça peut arriver un peu comme dans Vermin, si tu veux, où le jeu peut gagner, c'est-à-dire où la question, c'est la survie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un groupe de joueurs se fasse décimer par... le froid qui tombe et ils ont perdu le feu. Non, je ne fais pas de référence.
Que tout un groupe meure dans une aventure, ça se peut. Ça dépend du taux de mortalité qu'on souhaite dans sa partie, c'est tout. C'est pas du jeu de plateau. Bon, donc, oui, comme je vais peut-être réussir à finir ma putain de phrase. Comme je disais, le jeu est vachement sympa, vachement beau et tout. Moi, ça me dirait bien d'en faire un one shot ou un truc comme ça. Je sais pas si je partirais sur une campagne, franchement. Mais voilà, mais le jeu en lui-même est vraiment super bien. Bon, eh bien, maintenant, nous allons t'écouter parler de Mississippi.
Alors, avant de parler de Mississippi, je voudrais faire une dernière remarque sur Vurm.
Oui.
Mais ils avaient pas Internet alors à l'époque.
Non.
Comment ils faisaient
pour. Je sais pas, ils avaient pas la télé non plus.
Ah oui, quand ils pensent, hein. Et du coup, ils étaient obligés de... C'est pour ça aussi peut-être que les groupes étaient forts, parce qu'ils étaient obligés de discuter entre eux, non? Ou j'en sais rien. C'est bizarre quand même. C'était une civilisation bien étrange.
Oui.
Celle pré-internet.
Mais le pré-internet remonte jusqu'aux années...
Ouais, c'est 80. Un peu la même chose qu'à l'époque de Vurm, quoi.
Bon.
Mississippi.
Mississippi.
C'est un jeu qui est sous-titré Tales of the Spooky South. Comment tu traduirais ça? Les contes du sud bizarroïde ou du sud un peu...
Spooky, c'est spooky, je sais ouais, pas, un peu, effrayant.
Ouais, un peu...
Du sud effrayant. Louche, quoi, un peu louche, ouais, tiens, c'est bien ça.
Il doit y avoir une expression officielle, mais je la connais pas. Donc c'est édité par les Loups Singes dans la collection intégrale. Le bouquin, en fait, il y a deux bouquins. Il y a un bouquin qui s'appelle Mississippi et l'autre bouquin qui s'appelle Secrets of the Mississippi. Non, pardon, Les Secrets du Mississippi. Voilà. Il faut que je retrouve. Il est là. Oui, c'est ça. Les Secrets du Mississippi. Donc, en gros, le premier bouquin est lisible par tous en théorie.
Et il y a également un petit écran.
Ah, il y a également un petit écran donc au format effectivement petit, puisque donc c'est un format à la John Doe. Enfin.
Oui, c'est du 5.
Oui, voilà. D'ailleurs, je parle de John Doe. Ça utilise le DK, mais enfin, je vais y revenir. Alors, nous avons googlé,
un stagiaire,
un membre de la secte a googlé, et donc spooky, ça veut dire qui a la chair de poule, ou qui donne la chair de poule.
Chair de poule, donc, ouais.
Voilà.
Merci.
Donc, c'est Mississippi, le jeu de rôle s'appelle Mississippi, les contes du sud qui donnent la chair de poule. Sachant que la poule, le poulet est un aliment très important dans la consommation du sud des États-Unis. Je ne sais pas si c'est un rapport en fait, mais bon. donc il y a deux livrets. Le premier est lisible par tous et Et le deuxième est bien sûr la campagne. Donc il faut éviter de le lire si vous n'êtes pas le maître de jeu. Voilà. Premier abord, c'est un livret magnifique, hein, le livret de base, Mississippi. Les illustrations sont très jolies. Elles sont en noir et blanc, mais vraiment, elles rentrent très très bien.
Je confirme, il y a plein de vieilles photos d'époque qui sont super belles.
Oui.
Le travail de recherche de documents est très important.
Oui, avec utilisation aussi de photos qui sont ensuite qui sont récupérées et qui ont dû être un petit peu traitées, je pense. En tout cas, ça rend vraiment très très bien. Alors, quand on regarde l'ours, on constate qu'en fait que c'est des photos qui viennent des archives nationales américaines. Voilà, donc il y a eu un certain travail de documentation, c'est assez impressionnant. Quand on lit le jeu, tout est très documenté finalement. Ça me fait penser un peu, dans la même veine de ce que tu m'avais donné à lire, à Tenga, qui décrivait un univers avec une richesse incroyable qu'on n'invente pas. Quoi. Enfin,
beaucoup de détails, oui.
Il faut quand même être passionné, oui. Avoir lu le truc. Enfin, avoir lu pas seulement un bouquin, mais
pas un truc vite fait.
Alors il y a toute une équipe qui a travaillé sur le jeu, hein, mais je vais quand même vous citer pour mémoire les auteurs principaux. Donc il y a Christophe Gérard, Franck Place et Lionel Jeannerat. Franck Place à la direction éditoriale, Christophe Gérard pour l'univers, les textes et les règles, et Lionel Jeannerat pour la coordination générale. Bon, ensuite il y a des illustrateurs et tout, Johan Vass, Maeva Véry et Olivier Sanfilippo.
C'est sorti chez qui, ça?
C'est sorti chez les 12 singes.
D'accord.
Voilà. Ça porte aussi le logo Forge Songe, mais Forge Songe, c'est un site web. Hein.
C'est un collectif d'auteurs, un vrai, c'est pas comme Tristan. C'est un collectif d'auteurs et ils ont fait beaucoup de choses. C'est eux aussi qui ont sorti Capharnaüm, que je suis en train de relire et je ferai à l'an prochain. Plutôt vers le début de l'année, j'espère. La critique de la campagne qui va sortir.
D'accord.
Pour Capharnaüm, voilà.
Ok. Pendant que j'y pense. Donc, Tales of the Spooky South, Mississippi, c'est quand même un jeu de rôle. Je pense qu'il y a une campagne et puis c'est tout. Enfin, je ne suis pas persuadé que c'est un jeu de rôle auquel on puisse jouer durant des années. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en revanche, alors d'une part, c'est vraiment génial à lire.
C'est ce que Ino appelle un burn. C'est
ça ? Je ne sais pas.
Ben, c'est un univers campagne qui se dévoile tout au long de l'aventure. Mais en fait, les changements que tu opères, enfin bref, ça fait que tu peux pas vraiment réexploiter le bouquin au-delà de sa fin, quoi.
Tu pourrais, mais parce que...
Enfin, il y en a certains où on peut vraiment pas, c'est-à-dire genre l'univers est détruit ou...
Oui, alors là... Bon, en fait, je vais pas vous dévoiler trop la campagne.
Règle de l'apocalypse à la fin.
Mais en fait, ça se passe dans les années 20, les années 30... Et là, on est en 2011 et on est toujours sur Terre, donc il n'y a pas eu d'invasion d'extraterrestres à l'époque ou d'apocalypse, etc. De toute façon, c'est pas vraiment dans le thème précisément. Alors le thème, c'est quoi ? C'est le blues, c'est le sud des États-Unis et c'est une sorte de lutte entre, pour reprendre, on va dire, la classique. Classification judéo-chrétienne entre le bien et le mal, mais surtout plutôt entre le malin avec un grand M et
le concon
t'es pas très loin, c'est entre le brave Johnny, donc qui est
le brave Johnny,
ouais.
C'est vrai,
ouais, il s'appelle Johnny. Alors
I am Johnny and I save the world. Non?
Voilà, enfin, un type qui s'appelle Johnny et qui, en fait, a rencontré le malin dans un carrefour.
et qui a eu un duel de musique avec lui, où le malin avait gagé son violon d'or, et puis Johnny, lui, il a gagé son âme, mais il a gagné, donc ce qui a mis le malin dans tous ses états. Et depuis, donc, il répand la bonne parole du blues. Il fait partie de ceux qui ont apporté le blues aux hommes. En fait, c'est pas lui vraiment, c'est un autre personnage, mais lui, c'est le bluesman, et il combat le malin par la musique.
D'accord. Ah, c'est vachement sympa comme pitch.
C'est super sympa, et en fait, du coup, il rassemble autour de lui toute une équipe, on va dire. Il rencontre des personnes qui vont l'aider ou le combattre, et qui viennent de toutes sortes de traditions. Tu as les moires, par exemple, qui est un terme qui vient de la mythologie gréco-romaine. Les moires, c'est mythologie gréco-romaine ou nordique, je ne sais plus tout d'un coup.
Bon,
on s'en fout. En gros, c'est celles qui tissent le fil du destin. Non, ça doit être les Grecs.
Oui, ça fait plus grec.
Ouais. Après, tu vas voir qu'on va avoir une sale remarque sur le site web. Les moires, c'est la mythologie éthiopienne ou je sais pas quoi. Enfin, bon.
Babylonienne.
Et en fait, par exemple, ça va être trois vieilles femmes noires qui viennent plus du monde du vaudou.
D'accord.
Tu vas voir Prométhée qui apporte pas le feu aux hommes, mais Prométhée qui a volé la musique aux yeux blancs pour la donner aux noirs. C'est très fort quand même. L'action prend place en fait dans le sud des États-Unis, qui est une des terres d'élection du vaudou. Enfin, on parle là de la Louisiane, on parle de l'Arkansas et j'en loupe un. Enfin, il y a en gros trois États concernés, mais c'est vraiment le sud du Mississippi. Et donc c'est une des zones où vivait encore plus dans les années 20-30 le vaudou. Le vaudou c'est une sorte de religion syncrétique qui mêle des éléments animistes, mais aussi un peu
d'éléments chrétiens,
etc. Mmh. Et donc c'est vraiment il y a un parallèle à faire entre les personnages qui font un peu penser à la mythologie grecque, Prométhée, qui font un peu penser à, il y a aussi Orphée, enfin,
ah d'accord,
oui, en fait ils ont des noms comme ça.
Je connais un, oui. C'est au Vietnam, je crois, dans certaines zones, ils mélangent aussi plein de trucs, et donc dans leur dieu ils ont aussi Pasteur.
Oh, c'est vrai.
Oui.
Le dieu des vaccins.
Oui, voilà, le dieu de la bonne santé, tu vois.
C'est génial. Enfin, c'est rigolo.
Oui, voilà.
T'as vu un petit hôtel ils font des sacrifices humains.
Non, j'en ai juste entendu parler.
D'accord.
Bon. Voilà. Ça se trouve, c'est une parfaite rumeur.
Oui. C'est quand même une rumeur intéressante. Oui, donc il y a un parallèle à faire entre les personnages de cette ce qui va s'appeler la légende du blues, avec un grand L, de cette fresque épique, on va dire. Il y a parlé entre les personnages de cette fresque, donc qui ont des origines très diverses, et puis le blues, qui lui-même aussi est une musique une musique bâtarde, hybride, née de la terre, hein. Ça n'a pas été hérité de Vivaldi, enfin c'est quelque chose qui est issu de mélange de gens qui ont été jetés sur les routes, qui ont été enlevés en Afrique et importés aux États-Unis. Enfin, il y a toutes sortes d'influences. Il y a même peut-être des influences indiennes, des influences de la musique occidentale, etc. Et puis le sud des États-Unis, c'est une zone où La Nouvelle-Orléans, c'était l'endroit où arrivaient plein d'immigrants venant d'Europe. Tu as eu les Français qui bon, d'abord, il y avait les Indiens, ensuite, il y a eu les Français. Après les Français, il y a eu les Espagnols au début du 19e siècle. Non, c'est même bien avant, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Ensuite, il y a eu les Américains. Ah oui, voilà, c'est les Américains ensuite qui sont arrivés début du 19e, lorsque Napoléon a vendu la Louisiane. Les sudistes, et après les sudistes se sont fait rétamer la gueule lors de la guerre dite de sécession, et les Yankees sont arrivés, voilà, donc il y a vraiment plein de races, de cultures, etc. Enfin, de race, c'est un terme qui n'est pas approprié, mais d'ethnies différentes. Voilà, donc d'ailleurs, je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, donc ça c'est le contexte. Mm-hmm. On a le sud des États-Unis, on a une musique, le blues, qui va habiter tout ce jeu, au point que les chapitres sont des refrains, genre de choses, qu'il y a des paroles de chansons un peu partout, et que y a vraiment la sensation que c'est fondamental au jeu.
D'accord.
On a une sorte de combat entre le bien et le mal, même si à aucun moment ces termes-là sont utilisés pour désigner. Uh-huh. En fait, c'est plus entre deux. Si on devait opposer deux choses, ce serait plus deux versions du vaudou. Il y a la version du vaudou soutenue par le malin, et la version du vaudou, entre guillemets, gentil.
Qu'est-ce qui les oppose?
Le Kimbanda, c'est la branche maléfique du vaudou, qui se range aux côtés du malin.
La différence, c'est quoi? C'est le type de pouvoir?
Je pense que c'est surtout dans l'attitude. Hein. Enfin, à la base, le vaudou, c'est une religion qui a ses dieux et qui ne sont pas forcément... très justement judéo-chrétien dans le sens.
Oui, ils sont pas positionnés dans ce sens-là.
Si je me souviens bien, les trois.
Non, mais moi je demandais d'un point de vue purement système, en fait.
Pardon, les trois moires, si je me souviens bien, donc ces personnages qui sont des vieilles femmes, qui sont des personnages parmi d'autres, il y en a plein, mais à la base elles sont pas forcément contre le malin. Elles ne sont pas contre le Kimbanda, mais il y a un déséquilibre. Enfin, il y a un risque trop grand que le
tissu se déchire.
Ouais, voilà. que la force. Enfin,
que les effluves se croisent. Enfin, des trucs vraiment pas cool. Quoi.
Ouais. Non, mais t'es pas loin de la vérité du jeu, quoi. Enfin, c'est ça. Donc, elles prennent partie effectivement pour. Pour les bluesmen.
D'accord.
Voilà. Donc les bluesmen, bah, ça va être des sortes de hobos, enfin des clodos qui voyagent avec les trains, genre de choses, qui vont de ville en ville et puis qui vivent chichement et qui vivent de leur musique et de peut-être de quelques vols de pommes et ils vont combattre les suppôts, on va dire, du malin, qui eux-mêmes vont essayer de carrément les tuer ou en tout cas les soit les convertir ou enfin les essayer de s'en débarrasser. Donc le jeu utilise le système DK, donc qui est un système dont nous avons déjà parlé, il me semble.
Oui, un excellent système.
Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Juste je vais dire que comme dans plein de jeux, il y a des races et des classes, en gros. Hein,
mm-hmm.
Je vais vite fait retrouver la page. Et puis, je vais les passer en revue parce que c'est assez rigolo. Alors, pour les classes, on a le bluesman. Le bluesman, ça va être un peu l'élément central d'une équipe de joueurs. C'est un peu...
C'est le dragon de Scales.
J'ai jamais joué à Scales, je connais pas. Mais dans Rock Trader dont j'avais parlé, ça va être le Rock Trader. Ça va être le,
d'accord, voilà c'est ça. Mais dans Scales, tu as aussi une galerie de personnages dans ton groupe. Et l'un des personnages est le dragon. Et c'est celui qui doit être en gros veillé par les autres. Donc c'est pour ça que je faisais...
D'accord, mais c'est très intéressant. Effectivement, c'est lui qui va être... qui va se mettre au service donc de sa cause, la cause du blues. Donc il porte en lui la flamme du Blue Devils, et il finit toujours par passer une nuit à un carrefour. Et c'est à ce carrefour, durant une nuit, que sa flamme du blues s'éveille. Donc il y a une vision un peu mystique du blues. C'est assez fascinant à lire. Donc il peut influencer les sentiments des vivants, des morts et des esprits. Il est une sorte de magicien de la musique. Voilà. En même temps, il n'y a pas des effets pyrotechniques. Mais voilà, c'est vraiment assez rigolo. C'est un personnage qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de jeux, donc c'est assez amusant. Et donc il y a d'autres classes entre guillemets de personnages. Il y a le bon pote qui est celui qui va se bagarrer pour vous, qui va le sidekick idéal. Il y a la belle blonde qui est on pense à la science touriste, il y a toujours une belle blonde pour finir l'équipe. Il y a le bandit intrigant, la brute épaisse, bon je vais pas tous vous les faire, mais le binoclar ambitieux. Et puis à côté il y a des ethnies, des origines. Donc il y a afro-américain, petit rappel, on parle des États-Unis, le sud des États-Unis, le sud profond dans les années 20, les années 30. Donc le Ku Klux Klan est bien sûr toujours très actif, s'amuse à brûler, lyncher les noirs. Enfin, donc c'est presque du survivor à certains moments, je pense. Il y a le natif, donc qui est bien sûr l'Indien, forcément alcoolo, enfin pas forcément d'ailleurs. Il y a le Sicilien, puisqu'il y a quand même quelques Italiens, je les avais mentionnés, qui étaient arrivés dans le sud des États-Unis. Il y a le Cadien, Cajun, c'est, ouais, en fait, ouais. C'est le Cajun, je crois que c'est le mot Cadien déformé.
C'est l'Acadien.
Oui, Acadien, Cadien, Cajun. Ouais. Il y a le sudiste, donc j'ai beaucoup aimé la façon de décrire les types de sudistes. Je vous le lis, c'est très court. Deux grands types de sudistes se démarquent dans le sud des États-Unis. D'un côté, celui qu'on appelle communément le redneck, le mélange subtil d'un cow-boy et d'un fermier qui aime la poudre noire et la peau blanche, qui gère sa famille, sa ferme et sa petite ville, et de l'autre, le simple sudiste qui vit sans faire de vagues. Dans les deux cas, ils sont malheureux. Les premiers regrettent la belle époque colonialiste où l'on acceptait pas tous ces étrangers à l'église, à l'école et au bar. Les seconds attendent l'époque, 1, 2, 3, où ils pourront aller à l'église, à l'école et au bar sans côtoyer les premiers. En gros, il y a des gros lourds dans le sud, donc faut vivre avec. Il y a le Yankee, donc un peu conquérant toujours. On n'est pas si loin que ça des années 1860.
Mm-hmm.
Enfin, il y a encore des gens qui ont connu cette époque, qui sont vivants.
Oui.
Voilà. Donc je fais le tour. Ensuite, il y a une belle description des régions concernées. Il y a quand même pas mal de diversité. La plus grande ville, hein, sans surprise, c'est donc la Nouvelle-Orléans. Rien que ça, je pense qu'il y a matière à jouer. Enfin, c'est une ville très diverse déjà. Voilà. Donc, qu'est-ce que vont faire les personnages? Ils vont se retrouver et entamer une sorte de grande quête. Mais ça va pas être une quête avec des épées et une quête avec des dragons. Ça va être une quête qui va faire penser à celle. Un peu de George Clooney dans O Brother, ce genre de choses. Enfin, c'est une quête plus picaresque, plus de va-nu-pied, on va dire. Alors, je vais vous citer les sources d'inspiration, parce que ça vous donnera. Enfin, quelques sources d'inspiration, ça vous donnera peut-être quelques idées. Ils ont cité O Brother, il y a Angel Heart, qui se passe à Nouvelle-Orléans, qui est
un film génial.
Enfin, bon, il y a d'autres trucs. Hein. Il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup de musique. Alors, l'auteur conseille beaucoup de blues, y compris les chants des prisonniers qui travaillaient dans les champs. Il y a un album qui s'appelle Negro Prison Camp Work Songs. Les chants de camp de travail des Noirs.
D'accord, vache.
Et voilà, donc je pense qu'un jeu comme ça, il faut absolument avoir passé un peu de temps, ce que je n'ai pas fait, j'avoue, à écouter le blues, parce que visiblement il a été écrit en écoutant du blues. Et je pense qu'il doit être joué comme ça aussi, c'est évident.
Oui, oui.
Et ça donne envie de voyager, d'aller là-bas.
En fait, c'est un jeu de rôle comédie musicale.
Bah ouais, il y a un peu de ça. Si, c'est rigolo, j'ai pensé en lisant les pouvoirs, il y a des atouts donc, qui sont des capacités spéciales des classes. Mm-hmm. Et ceux du bluesman lui donnent des pouvoirs qui font penser un peu aux bardes dans les jeux de rôle, qui utilisent leur musique pour
endormir, séduire.
Atout d'ethnie, atout de style bluesman. Voilà, oui, il peut jouer une musique qui permet d'influencer le rythme nerveux des gens pour les perturber. Bon, il a même un stun, il peut même avoir un stun quelque part avec sa musique. Ou alors, il peut invoquer des ténèbres surnaturelles. Voilà, il peut. Enfin, bon, en fait, chaque classe a ses petites, a ses atouts qui lui donnent un certain charme. Voilà, par exemple, la belle blonde peut avoir le last kiss before dying, donc elle peut sauver un autre personnage à la mort en lui faisant le baiser d'adieu si c'est fait au plus tard une minute après le décès. Enfin, des trucs comme ça. Donc ça c'est
sympa, les pouvoirs. Hein.
Oui, c'est sympa, mais je pense que tout est dans le trip. Enfin, il faut que il faut que les joueurs
dans l'interprétation
et le maître de jeu se
plonge dans l'univers
de le trip. Voilà, c'est une sorte de voyage un peu initiatique et un peu musical, tu as dit.
Oui.
Je pense qu'il faut
puis dans des paysages,
faut faire un opéra de sensations, c'est-à-dire avec du blues. Faut essayer de trouver de se préparer un peu de cuisine du sud. Alors je sais pas, aller à KFC ou alors, je sais pas, faites-vous des crevettes.
KFC, quelle horreur. Hein.
Ouais, alors, c'est peut-être pas ça. Mais bon, l'idée est là, quoi. C'est un truc. C'est un jeu qui a un plaisir à lire et qui devrait être sympa à jouer. Donc, la campagne, je l'ai pas lue en entier, mais je l'ai parcourue. Et je trouve que l'idée de base de la campagne est vraiment très très bien. Je comparais, avant quand on en discutait, j'avais comparé ça au masque de Nyarlathotep. Bon, toute proportion gardée. Hein, mais quelque part, dans l'idée, il y a celle d'une grande aventure qui va mener les joueurs, les personnages des joueurs aux quatre coins du sud.
Oui.
Avec une conclusion forcément
grandiose.
Ouais, quelque chose de vraiment très sympathique, quoi, à la fin. Mm. Même si j'avais pas eu l'intention, en fait, je pense que c'est le genre de jeu qui peut être vraiment sympa juste à lire.
Ouais.
Je dis pas qu'il faut pas y jouer, hein, au contraire, mais il mérite d'être lu rien que pour tout le côté. On apprend des tas de choses sur les villes, sur le blues, sur voilà. Donc il est très documenté.
D'accord.
Oui. Les auteurs ont construit leur univers. Et puis ça peut même être, je pense, pourquoi pas, enfin réutiliser si on le veut aussi, bien sûr.
Moi, j'aimerais bien faire un mélanger ça avec du Tom Sawyer.
Ah bah oui, il cite un petit peu. Forcément, quand tu vois les vaisseaux, enfin les vaisseaux, les bateaux vaisseaux. À aube.
Ah oui, les bateaux.
on pense à Huckleberry Finn.
Oui, voilà. Aussi à Joe l'Indien.
Mais enfin, tu dis ça, mais je vais pas trop en dire parce qu'il y a quand même peut-être, si ça se trouve, des gens qui vont y jouer.
Oui.
Mais vraiment, ils ont laissé aucune piste inexploitée. C'est-à-dire que de mémoire, on voit pas Tom Sawyer dans le dans le jeu, mais en revanche, l'univers des bateaux à aube est exploité. Mm-hmm. Il y a des Indiens, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, quoi. Donc ils ont essayé de faire quelque chose d'assez complet.
D'accord. Eh bien, merci Cyril pour cette magnifique critique de Mississippi.
Merci Gobal.
Je crois que nous avons terminé l'émission.
Nous remercions tout le monde, nous remercions vous les auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous dire ce que vous pensez un petit peu de l'émission. Et puis voilà, donc on vous retrouve en janvier pour notre épisode anniversaire, puisque ce sera les 1 an du podcast.
Ouh, faudra qu'on fasse un gâteau.
Oui, un gâteau et du champagne.
Ah bah oui.
Bon, et voilà, et on verra ce qu'on fera à cette occasion. Bon, et bien sur ce, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Et puis, et bien à l'année prochaine. Allez, ciao.
Un bisou, bien, salut.
Gloria in excelsis Deo.
C'était pas était arrivé depuis longtemps, hein.
Oh la vache, oui, tu m'étonnes.